France Inter.
Ce drame à Anvers, où ce qui s'apparente à un règlement de compte dans le milieu de la drogue a tué à une enfant, une fillette de 11 ans.
Les faits sont actuellement qualifiés d'assassinat. L'enfant a perdu la vie à la suite d'un règlement de compte clairement lié au milieu de la drogue anversoise.
Cet enfant, assassiné au début du mois, c'est la dernière victime d'une guerre qui dure depuis 10 ans et qui a déjà fait plus de 100 morts en Belgique et aux Pays-Bas. Un combat pour le contrôle de la cocaïne qui entre en Europe par les ports de Rotterdam et d'Anvers. Les différents groupes qui s'affrontent font partie d'une organisation criminelle gigantesque, tentaculaire et internationale baptisée Mocromafia, allusion au pays d'origine des fondateurs.
If we look at the top, who are the big bosses,
si on regarde qui sont les grands patrons de cette affaire, la plupart du temps ce sont des Marocains.
They work together with Camorra,
mais ils travaillent avec la Camorra italienne,
Irish people,
avec des Irlandais, avec le cartel Kinahan.
So this is global.
Donc c'est international et ça rapporte beaucoup d'argent.
Avec plusieurs milliards d'euros au total, cette Mocromafia ne recule devant rien. Coordonné par Europol, le décryptage en 2021 de Sky ICC, messagerie électronique cryptée, a permis l'arrestation de 2000 personnes et mis en lumière les menaces, la corruption, les assassinats à répétition. Les conversations électroniques ont gardé toutes les traces laissées par les membres de ce réseau ultra-violent et sans limite.
Aujourd'hui, nous savons tout et du coup, ça choque tout le monde. Ils disent qu'ils ont trouvé à la frontière entre la Belgique et la Hollande des containers qui servaient à enfermer quelqu'un pour le découper. Mais à mon époque, j'ai vu ça aussi.
Des chambres de torture.
À mon époque, ces endroits-là existaient déjà. Mais le gouvernement ne le savait pas.
Le démantèlement d'une partie du réseau, l'arrestation de plusieurs barons de la drogue à Dubaï il y a quelques semaines n'ont rien changé. La cocaïne continue de circuler et depuis sa prison de haute sécurité, Ridouane Taghi, le chef présumé de la Mocromafia, est soupçonné d'avoir tenté d'intimider la famille royale néerlandaise et d'enlever le ministre de la Justice belge. C'est au tribunal où se tient son procès que commence ce reportage. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer à l'intérieur de l'un des palais de justice les plus sécurisés de la planète, en banlieue d'Amsterdam. Mocromafia, quand la violence des cartels déferle sur l'Europe. C'est un reportage de Thibault Lefebvre, prise de son Thibault Nassim Ben.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Alors là, on vient de croiser deux policiers, ou plutôt un policier et un soldat. Fusil automatique en bandoulière, casque sur la tête, cagoule sur le visage. On sent bien qu'on approche du bâtiment qu'on appelle ici le bunker. Le bunker, donc ce bâtiment ultra sécurisé. Ce palais de justice créé il y a quelques années pour traiter les affaires les plus sensibles en termes de sécurité, notamment éviter les évasions. Donc on marche là à quelques mètres. Il y a un autre cordon de sécurité.
Hi. The reason why you walk here with the microphone?
Because we are journalists. We go in the bunker. We are accredited
by
the justice minister. You know?
Yeah.
So we go.
You have to paperwork with you.
Yeah, for sure.
Yeah, no, you don't have to show it me.
Yeah.
Donc là, c'est le deuxième cordon policier qu'on vient de traverser. Visiblement, il y en a trois autres. On est dans une zone commerciale sans charme, à l'ouest d'Amsterdam. C'est le quartier d'Osdorp, un quartier plutôt populaire. Donc c'est là que depuis deux ans se tient le procès Marengo. Les réquisitions ont eu lieu l'été dernier. La prison à vie, la prison à perpétuité, a été requise contre le principal accusé, Ridouane Taghi. Et on va assister au début des plaidoiries de la défense.
Moment nog hoor, het is nog een beetje vroeg.
Hello?
Hello, one moment please.
Ja,
c'est interdit. Voilà. Pas de vidéo, pas de caméra, parce que c'est interdit.
D'accord.
D'accord. Ok. Et pour le moment, les chaussures, s'il vous plaît, le téléphone, tout ce que c'est.
Ok. Alors comme il est strictement interdit de filmer ou de capter quoi que ce soit dans la salle d'audience, je vais essayer de vous décrire l'ambiance. Donc aujourd'hui, c'est le second jour des plaidoiries. Il y avait 7 magistrats dans cette salle d'audience. Une salle bas de plafond, les murs sont blindés. Et les journalistes, en fait, suivent ces débats derrière du double vitrage à l'arrière de la salle. Et parmi donc ces journalistes, Marieke de Witte, elle est spécialiste police-justice pour l'agence de presse néerlandaise ANP. Marieke de Witte, vous êtes une des journalistes accréditées pour suivre au quotidien ce procès Marengo. Est-ce que vous pouvez être nos yeux? Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se déroule ce procès?
Ça fait déjà plusieurs années qu'on suit ce procès. Il a commencé en 2018, lorsque le témoin clé a été présenté par les procureurs. On ne peut pas filmer, on ne peut pas enregistrer. Normalement, il est possible de dessiner les magistrats ou les juges, mais pas dans ce procès, non. Ils doivent rester anonymes. La sécurité autour de ce procès est exceptionnelle. C'est un grand procès, avec 17 suspects accusés de nombreux meurtres et tentatives de meurtres. Et ce qui est aussi vraiment exceptionnel, nous n'avons jamais vu cela aux Pays-Bas, c'est que pendant que le procès était en cours, il y a eu encore plus de meurtres. Et ces meurtres étaient liés à ce procès. Par exemple, une semaine seulement après que l'accusation a révélé l'existence d'un témoin clé, le frère de ce témoin clé a été assassiné. Puis son avocat, l'avocat du témoin clé, a été assassiné. Et puis son conseiller, c'était un journaliste spécialisé dans le crime très célèbre aux Pays-Bas, Peter de Vries. Il a été tué.
Les Pays-Bas endeuillés après la mort du journaliste Peter de Vries, le journaliste et présentateur de télévision, a succombé à ses blessures après avoir été pris pour cible et reçu plusieurs balles, dont une à la tête, le 6 juillet dernier, à sa sortie d'un studio télé.
Il a notamment été consulté en 2019 lors du procès retentissant d'un narcotrafiquant. Peter de Vries avait d'ailleurs indiqué que, selon la police, son propre nom figurait sur la liste des personnes menacées de mort par le narcotrafiquant.
Donc ça, c'est exceptionnel. On n'a jamais rien vu de tel. Ça a été une succession de chocs. Vous avez vu à l'extérieur. Il y a beaucoup de policiers. Il y a 6 mois, on a même décidé d'appeler l'armée pour renforcer la sécurité. Vous avez pu voir un drone au-dessus du tribunal et ces grosses voitures rapides, car les routes sont fermées à la circulation quand ces voitures arrivent ici. Les juges, les procureurs, les suspects sont transportés sous haute sécurité à cause des menaces qui planent sur ce procès. C'est l'ensemble de la société qui est surprise et sous le choc face à ce qui se passe. Il y a eu une attaque à l'arme lourde contre le magazine hollandais Panorama. Une voiture bélier est entrée dans le bâtiment du Télégraphe.
Parce que les journalistes qui suivent cette affaire, le procès Marengo, les journalistes aussi sont menacés. Est-ce que vous avez changé votre manière de travailler ?
Non, je relate des faits, nous n'avons pas d'opinion, nous ne faisons pas de commentaires.
Vous avez des enfants ?
Yeah. I have family and my family.
Oui, oui, j'ai une famille et ma famille y pense. Est-ce que c'est sage de le faire? Et puis j'écris aussi un livre sur ce procès. Donc c'est mon travail de permettre aux gens d'entendre ce qui se passe.
Aujourd'hui, Ridwan Taghi, c'est l'ennemi public numéro 1 ici.
Il a été arrêté à Dubaï fin 2019. Et avant cela, oui, il était numéro 1 sur la liste des personnes recherchées. Ils avaient même promis 100 000 euros à celui qui donnerait des informations pour le retrouver. Donc oui, il était numéro 1 sur la liste des personnes recherchées. Oui, c'est sûr.
La crainte des autorités, c'est que Ridwan Taghi organise des assassinats de son lieu de détention.
Ce qu'ils craignent, c'est que non seulement il continue ses projets criminels, mais il y a aussi la crainte qu'il veuille s'évader de prison pendant son transfert vers le tribunal. Il y a même des preuves qu'il planifiait cela, oui. Donc ces craintes existent.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Message attribué à Ridouane Taghi, août 2015.
Les services secrets marocains sont à fond sur moi. Ils me cherchent pour 32 assassinats. Ils ont retrouvé des armes. Je vais prendre un Zodiac et me réfugier en Espagne.
Message crypté, envoyé en 2016.
J'ai besoin d'un bain de sang et rien d'autre.
Commentaire après l'assassinat d'un chef de gang.
Le Yugo a cessé de vivre. Ce chien a reçu 5 ou 6 balles dans la tête.
Contrat avec des tueurs à gages, 2016.
Vaut mieux abattre ce boucher. Tout le monde peut savoir que c'est de ma part. Il a parlé avec la police. On le kidnappe et on le ramène en Belgique. J'ai un endroit là-bas pour faire disparaître son corps dans une baignoire remplie de charbon.
Je m'appelle Ménia Arabtigrin, je suis avocate au barreau de Paris, pénaliste.
Vous êtes une des avocates de Ridouane Taghi, le cerveau présumé de la mocromafia. Est-ce que vous, vous considérez que dans les conditions de détention qu'il subit aujourd'hui, il peut encore tirer les ficelles ?
Il est matériellement impossible à Ridouane Taghi d'envoyer quelques messages que ce soit. Il n'a plus de contact avec les êtres humains, c'est-à-dire que les parloirs au moment où nous parlons avec tout membre de sa famille lui sont strictement interdits, que par ailleurs le contact avec les membres du personnel pénitentiaire passe par des écrits. Ils sont eux-mêmes encagoulés, donc ils ne parlent plus. J'ajoute à cela les fouilles qui ont lieu plusieurs fois par jour, alors que précisément il n'est en contact avec personne, donc elles ont encore moins de sens. Ça, c'est de la torture, c'est un autre article de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit tout de même qu'on ne doit pas être soumis ni à la torture, ni à des peines qui soient humiliantes ou dégradantes.
Qu'est-ce qu'on lui reproche à votre client ?
On lui reproche d'avoir fait peur. Et je crois qu'ils sont en train de répondre à cette peur qu'il a exercée sur eux de la manière qui est la plus fragile possible, c'est-à-dire en exerçant eux-mêmes la terreur.
Pendant des années, Ridouane Taghi s'est caché à Dubaï, il a échappé à la justice. Là-bas, il s'est rapproché d'autres criminels européens, l'Italien de la Camorra, Raffaele Imperiale, lui aussi derrière les verrous, le Bosnien Edin Kassanin, l'Irlandais Daniel Kinahan, ce qu'on a appelé le cartel de Dubaï qui a été démantelé récemment. Aujourd'hui, la justice néerlandaise juge un homme seul. Est-ce que Ridouane Taghi est le présumé chef d'orchestre de la mocromafia ?
Vous savez, la délinquance, ça n'est jamais un homme. Ridouane Taghi n'est pas le créateur de la mafia, il n'est même peut-être pas à la tête de celle dont on est en train de parler, et pour autant, il devra payer pour tous ces noms qu'on est en train de coller aux siens.
Aux Pays-Bas, les suites de l'attaque ayant visé un journaliste. Ce samedi, le studio de la chaîne RTL à Amsterdam a été évacué.
Au total, la mocromafia est impliquée dans près d'une centaine de meurtres ces 10 dernières années. Si l'assassinat de Peter De Vries a marqué les esprits, c'est parce qu'il a été tué en pleine rue, sous les yeux des habitants. Thibaut Lefebvre et Thibaut Nassim Ben sont allés à leur rencontre dans le centre-ville d'Amsterdam.
Nous sommes en plein cœur d'Amsterdam, des vélos, des rues piétonnes, et puis cette rue, la Leidsewarstraat, au niveau du numéro 180. Et c'est ici que le 6 juillet 2021, le journaliste Peter De Vries est mort. Il a été assassiné par des tueurs à gages en tout début de soirée, 5 balles. Et depuis, c'est devenu un lieu de recueillement. What is your name, please?
Evelyn.
Evelyn. Où est-ce que vous vivez?
First, here.
Juste là, au premier étage.
I saw the man lying on the floor.
J'ai vu l'homme allongé au sol.
I heard the shot and I looked out.
J'ai entendu les coups de feu.
In a few minutes, it was.
Donc j'ai regardé dehors et en quelques minutes, c'était plein d'ambulances de policiers.
Horrible.
C'était horrible.
Vous avez entendu le tir?
Yeah, yeah.
Oui, oui.
Yeah. I was on the telephone.
J'étais au téléphone avec une amie et je lui ai dit
« It's not the end of the year. »
Mais ce n'est pas le réveillon avec les feux d'artifice.
That's what I was saying. It's not the time.
Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et puis en quelques minutes, tout ce cirque a commencé. Oui, le cirque, avec toutes les ambulances, la police. Impossible de sortir. Tout le monde disait « Oh, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu quelque chose ?» Moi, j'ai tout vu. Et ça suffit. Basta. Maintenant, tout le monde se réveille et réalise que oui, ça peut arriver. Maintenant, on le sait. On était tous naïfs. Pas seulement la population, mais le gouvernement, la police, tout le monde. Personne ne pouvait imaginer qu'une chose pareille arrive. En plein jour. Il était 7 heures du soir. En plein mois de juillet. Par une belle soirée. Et pourtant, ça peut arriver.
À qui la faute ?
À cet homme, en prison, là.
Ridwan Taghi, monsieur Ridwan Taghi.
Oui, et les gens autour de lui. Et lui était le cerveau, celui qui est à l'origine de tout ce mal.
Evil.
Oui, le mal. Cet homme, c'est le diable. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si nous n'avions pas autant de liberté, ça ne pourrait pas arriver. On a laissé faire en disant, c'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a des limites, et on l'a oublié.
On doit arrêter de vendre de la drogue, par exemple.
Ça, c'est affreux. Mais impossible d'arrêter ça non plus. Tout le monde peut en acheter. Si vous permettez ça, alors vous devez le contrôler. C'est arrivé au point où on ne peut plus revenir en arrière.
C'est trop tard pour vous.
Oui, oui.
You have to live it with it.
On doit vivre avec ça.
Thank you very much.
Okay. No, okay. Have a good time.
Yeah, you too. Thank you for your time.
Where is the school lawyer?
Yeah, Mr. Choukroula, it's Thibault Lefebvre, journalist for the French National Radio.
Hi, I'm always there. You are at my office?
Yeah, we are just in front of you, of the door of your office.
I'm there in 1 minute.
Okay, we wait for you.
Okay,
bye-bye. See you there. Nous sommes devant la porte d'un des plus célèbres avocats d'Amsterdam. Il s'appelle Vito Choukroula. Nous sommes dans le quartier d'Oud-West. C'est une des plus anciennes banlieues d'Amsterdam. Vito Choukroula, il est considéré comme l'avocat des voyous. La moitié de sa clientèle appartient à la Mokromafia ou a des liens avec ses membres. Il connaît donc bien leurs méthodes. Pour la petite histoire, Vito Choukroula se prénomme Vito parce que ses parents étaient fans du film Le Parrain et donc du mafieux italo-américain Vito Corleone.
Discuss the case. Yeah. I'm now also working on this case with the murder journalist, you know.
Oh, without the murder?
Yeah. I'm also working on that case, but maybe I can give another example.
Yeah, why it's a bit touchy.
No, doesn't matter. We can also talk about it, but there are different cases. There are multiple cases.
Qui sont les personnes qu'on voit sur ces photos?
They said that they are suspected members of Mokro Mafia.
Ils sont soupçonnés d'appartenir à la Mokro Mafia.
Why do I show you this?
Pourquoi est-ce que je vous les montre? Parce que dans la Mokro Mafia, il n'y a pas que des Marocains.
This guy is from Suriname.
Ce gars vient du Suriname, Amérique du Sud. Celui-ci aussi, Suriname.
This guy is Dutch.
Ce type-là est hollandais.
This is Italian.
Celui-ci, italien.
So, you cannot say that.
Donc on ne peut pas dire que c'est juste un problème marocain en Hollande. C'est un problème plus large.
If we look at the top, who are the big bosses,
si on regarde qui sont les grands patrons de cette affaire, la plupart du temps ce sont des Marocains.
And they work together with Camorra.
Mais ils travaillent avec la Camorra italienne,
Irish people,
avec des Irlandais, avec le cartel Kinahan.
So this is global.
Donc c'est international.
It brings a lot of money in.
Et ça rapporte beaucoup d'argent.
These guys that you saw here, that you're seeing here,
ces gars que vous voyez ici ont eu un contrat pour tuer un membre de la Mokro Mafia qui avait garé sa voiture dans ce garage.
As soon as they saw this car,
dès qu'ils ont vu cette voiture, ils ont couru avec des mitrailleuses.
They start shooting.
Et ils ont commencé à tirer. Mais le gars dans la voiture n'était pas le membre de la mafia. C'était un DJ avec sa petite amie et leur bébé. leur petite fille. Ils avaient la même voiture et ils l'ont tué. La copine est tombée dans le coma et une des balles de Kalachnikov a raté le bébé à un centimètre près. C'est ce qu'a dit la police. Voilà, c'est ça la mocromafia.
Combien ça coûte de tuer quelqu'un pour un boss de la mocromafia? Combien vaut la tête d'un homme?
Il y a des cas où ils proposent pour certains 3, 4 ou 5 000 euros. Mais j'ai aussi un exemple où ils ont proposé 1 million pour tuer un grand criminel. Donc ça dépend. Parfois, les tueurs éliminent d'abord la personne et ensuite ils demandent combien vous me payez pour ça.
50 000?
Ah non, 20 000?
Qu'est-ce qui a changé et depuis quand? Depuis quand ces voyous sont-ils devenus particulièrement violents? Avec des méthodes qu'on voyait beaucoup en Amérique du Sud, et notamment des règlements de compte.
Ça a vraiment commencé en 2012, le 29 décembre 2012, pas loin d'ici. Trois Marocains ont été abattus à la Kalachnikov. À partir de là, c'est devenu une vraie guerre. La police est intervenue, elle les a poursuivis à quelques centaines de mètres d'ici. Ils ont tiré sur la police à la Kalachnikov. Tout le monde se disait, mais que se passe-t-il? La Hollande originelle, avec le fromage et les tulipes, c'est terminé. On est passé à autre chose. Désormais, c'est un narco-État à cause des menaces de la mafia. On a dû protéger le Premier ministre. La princesse ne peut même plus aller à l'université à Amsterdam. Elle se cache parce qu'ils veulent la kidnapper.
Pourquoi ces règlements de compte se concentrent aujourd'hui essentiellement sur les Pays-Bas et la Belgique et pas ailleurs, puisque cette mafia est internationale?
The cocaine guys from Colombia, they started for looking new routes.
Quand les trafiquants de cocaïne colombiens ont commencé à chercher de nouvelles routes, ils ont décidé de passer par le Maroc pour faire entrer la cocaïne en Europe. Parce que beaucoup de gars originaires du Maroc qui vivent ici importaient déjà du hashish pour les coffee shops. Et c'est le cœur du problème. Comme les coffee shops sont légaux depuis des décennies en Hollande, on avait déjà un marché de la drogue ici. Donc les Marocains qui ont ouvert la route pour apporter du hashish ont commencé à importer de la cocaïne en utilisant cette même route, parfois en transportant de la cocaïne et du hashish en même temps. Et depuis 10 ans, c'est la guerre entre eux pour savoir qui va diriger ce trafic de cocaïne. C'est comme en Colombie. Ils veulent devenir le grand patron, le Pablo Escobar d'Amsterdam.
Ce sont les mafieux marocains qui fournissent les coffee shops en Hollande depuis des années.
Le problème en Hollande,
le problème en Hollande, c'est que vous pouvez légalement acheter votre hashish. Mais les coffee shops ne peuvent pas avoir plus de 500 grammes de hashish ou d'herbe par semaine. C'est illégal. Ils ont besoin d'un approvisionnement régulier depuis le Maroc. Et c'est là qu'on bascule dans la criminalité. Ceux qui ramènent la cocaïne utilisent le même itinéraire. Donc les gens qui étaient dans le hashish et qui gagnaient, mettons, 400 000 euros par an, maintenant ils importent de la cocaïne et ils gagnent 40 millions par an.
L'État néerlandais a créé les conditions de l'émergence de cette mocromafia.
Yes.
Oui, si vous regardez comment ça se passait avant en Hollande, c'était bien. Tout le monde fumait de l'herbe, vous voyez, l'ambiance flower power et tout ça. Mais finalement, nous avons créé un environnement parfait pour faire naître ce monstre-là.
C'est un monstre pour vous.
Octopus.
C'est une pieuvre. Vous coupez un tentacule et les autres continuent de marcher. C'est donc un gros monstre qu'ils ont créé.
Quand on est avocat, comme vous, et qu'on défend des membres de la mocromafia, il y a différents clans qui s'affrontent. Est-ce que quand vous plaidez, quand vous travaillez, vous avez peur pour votre vie?
I'm not afraid, never.
Je n'ai pas peur, jamais.
I'm not afraid, but I'm also not stupid.
Mais je ne suis pas stupide non plus.
So when I walk out my
Alors quand
office,
je sors de mon bureau,
you know,
je regarde autour de moi. Quand je sors de chez moi, je vérifie d'abord partout autour. Je prends beaucoup de mesures de sécurité. Pour exercer mon métier, il faut être un peu paranoïaque.
En Europe, 3,5 millions de personnes auraient déjà consommé de la cocaïne. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Et à mesure que la drogue s'enracine sur le continent, les trafiquants développent leur réseau vers les pays voisins, au point que la Belgique pourrait bientôt être qualifiée de narco-État, avertissait en septembre le procureur général de Bruxelles. La drogue transite essentiellement par le gigantesque port d'Anvers, au milieu des 12 millions de containers déchargés chaque année sur les docks. Pour comprendre le fonctionnement de la mocromafia, la violence aussi, c'est avec un criminel repenti que Thibault Lefebvre a rendez-vous.
Interception sur France Inter. Paul Meyer est un homme qui aime le café. D'ailleurs, quand à l'école, les instituteurs de ses enfants posaient des questions sur le métier de leur papa, il répondait « Eh bien, mon papa, il prend des cafés. » Et c'est donc naturellement devant un café à proximité de l'immense port d'Anvers qu'il nous a donné rendez-vous, parce que Paul Meyer, c'est près de 20 ans de trafic en tout genre. Le hashish, l'héroïne et la cocaïne, puis 7 ans de prison en Thaïlande et en Belgique. Pendant des années, il a exploité les failles du port pour ramasser une petite fortune. Les revenus de son gang sont estimés à 700 millions d'euros.
Je m'appelle Paul Meyer. À l'origine, je suis hollandais. Je suis arrivé en Belgique il y a 30 ans pour commencer à faire du business. J'ai démarré avec le trafic de matériel électronique. Et puis c'est devenu de plus en plus gros. J'ai commencé à importer de l'alcool que je faisais passer en Angleterre. Puis, après les spiritueux, j'ai vendu des cigarettes. Et puis un jour, quelqu'un est venu me dire « Écoutez, est-ce que vous pouvez gérer la logistique pour nous ?» Ça venait du Maroc. Et ils payaient très cher pour ça. 80% du trafic, c'était du hashish. Le problème, c'est que les gens qui trafiquent du hashish, ils s'occupent aussi de la cocaïne. Et parfois, tu ne peux pas dire non.
Combien de temps ça a duré ?
5 ou 6 ans, je pense. Les voitures, les filles, les fêtes. C'était ça, ma vie.
Quel regard, vous, l'ancien trafiquant, vous portez sur cette nouvelle génération de criminels ?
Moi, personne ne m'a jamais mis un pistolet sur la tempe. Jamais. Parce que je n'ai jamais volé. Le problème aujourd'hui, c'est que des jeunes gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des sommes importantes voient passer 60 kilos, 100 kilos, 500 kilos. Ils font le calcul et ils sont sous le choc. Et c'est là que ça part en vrille. Toutes les tueries qu'il y a eu se sont produites à cause des vols. C'est la seule raison. Mais à mon époque, il y avait aussi des gens qui te tiraient dessus et des gens qui te coupaient des doigts et que sais-je. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, nous savons tout et du coup, ça choque tout le monde. Ils disent qu'ils ont trouvé à la frontière entre la Belgique et la Hollande des containers qui servaient à enfermer quelqu'un pour le découper. Mais à mon époque, j'ai vu ça aussi.
Des chambres de torture.
À mon époque, ces endroits-là existaient déjà. Mais le gouvernement ne le savait pas.
Juste en face de nous, il y a le port d'Anvers. C'était un peu votre bureau ici.
Oui, c'est vrai, c'était là. On buvait des cafés. D'ici, on peut surveiller les containers que vous voyez là-bas. On sait ce qui se passe. Et tous les gens qui viennent ici boire un café sont liés à l'activité du port. Les camionneurs viennent dans ce quartier, les douaniers viennent ici. C'est l'endroit où il fallait être.
Question très simple. Comment on fait pour passer de la drogue à travers des containers sans se faire attraper par la police ?
C'est simple. Je vais voir des gens qui travaillent sur le port et je leur dis quels sont les bateaux ou quelles sont les compagnies qui importent beaucoup de containers en provenance du Pérou. Alors ils me donnent une liste. Cette entreprise importe ceci du Pérou. Et moi, je commence à importer le même genre de marchandises, les mêmes produits, de la même manière, avec le même prix. Il n'y a pas de contrôle, parce que le système informatique ne s'intéresse qu'aux erreurs. Par exemple, si une compagnie importe tout le temps des bananes, et qu'on fait venir des bananes avec différentes quantités de boîtes, des poids différents, à des prix différents, l'ordinateur dit « Hmm, il y a un problème, vérifiez ce conteneur, passez-le au scanner. » Mais si tu as toutes les informations sur la provenance, les bonnes factures, avec les bons produits, la bonne quantité, tu ne te fais jamais attraper.
Et quand le conteneur arrive ici, sur le port d'Anvers, comment vous faites pour le sortir et finalement envoyer la drogue sur le marché européen?
Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est l'entreprise qui a passé la commande. Et la compagnie est bidon. En fait, je prends un mec bulgare, je fais de lui le propriétaire de l'entreprise. Et il téléphone en disant « J'ai tous les documents, je voudrais vider ce conteneur, est-ce que vous pouvez aller le chercher ?» Il l'apporte où vous voulez et le conducteur du camion n'est au courant de rien. Il y a d'autres façons de faire, comme déplacer des marchandises d'un conteneur destiné au marché international vers un autre qui est censé partir vers le marché européen, vers la France par exemple, parce qu'ils ne vérifient jamais ces conteneurs-là. Mais il faut avoir des gens fiables dans les ports.
that was happening with Nespresso.
Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Suisse avec Nespresso. Il y a 600 kilos de cocaïne qui devait passer dans un conteneur de café pour arriver en Suisse. Le conteneur est passé par Anvers et est parti vers la Suisse en camion. Mais ils ont oublié de sortir la marchandise dans le port. Et c'est Nespresso qui a trouvé les 600 kilos à l'ouverture. Ils étaient choqués.
Et avec cette méthode-là, plus compliquée, si on vous comprend bien, il faut des intermédiaires. Il faut pouvoir entrer sur le port pour récupérer la marchandise.
Mais vous avez des petits gars qui font ça pour vous. Si vous les payez 20 000 euros, vous avez beaucoup de jeunes qui sont prêts à sauter par-dessus le portail la nuit. Ils ont les informations, ils savent où est le conteneur et ils l'ouvrent pendant la nuit. Parce que le port est tellement grand. Tellement grand, c'est incroyable. Quand tu prends ton vélo, que tu traverses le port, personne ne te voit. C'est un port ouvert. Il n'y a personne, alors tu entres, tu trouves le conteneur. Tu l'ouvres, tu sors 60, 70, 80 kilos et tu les emportes. Mais ça, c'est pour des petites quantités, 60, 80 kilos.
Vous me montrez le chemin pour rentrer facilement au plus près des bateaux et au plus près des containers.
Tu vois, dans ce coin, c'est ouvert. Alors tu passes sur le pont et immédiatement tu tournes à gauche. Tu vas tout droit, tu peux prendre à droite ou à gauche. Vers cette zone-là, c'est là que tu dois aller.
Entre les deux canaux.
Tu trouveras direct. On voit les bateaux.
Merci, Paul.
Ok, perfect.
Alors, c'est parti, on monte vers le nord d'Anvers, donc en direction du port. Le GPS affiche quand même 21 km, soit à peu près une demi-heure de route. Alors, ça permet de se rendre compte à quel point le port d'Anvers est immense, un espace très très vaste et évidemment très compliqué à contrôler. Alors, on va faire une gaffe au vélo. Partout. Pas de tramway à droite. On voit des dizaines de grues pour décharger les containers des bateaux qui arrivent. Ouais, c'est une ville industrielle dans la ville. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on accède en effet à ces différentes parties du port sans vraiment être entravé. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de contrôle. On a croisé quelques véhicules de police, mais tout est ouvert. Ah ouais, donc là on circule en fait entre sur la gauche des containers qui sont empilés les uns sur les autres. Et donc sur la droite, un bateau, là, le Salt Stream. Garé là-bas. On arrive au plus près des marchandises, on est à 3-4 mètres des containers, il y en a des centaines, peut-être des milliers, c'est difficile à évaluer, ils sont juste là, donc de l'autre côté de la barrière, une barrière de 2,50 mètres de haut avec à son sommet des fils barbelés, donc c'est tout à fait possible si quelqu'un voulait nous envoyer un sac de pouvoir le récupérer et partir ensuite en voiture. C'est en revanche un peu plus compliqué de passer par-dessus.
Face à l'avalanche de cocaïne, impossible de tout contrôler. Les douanes d'Anvers saisissent des quantités de plus en plus importantes, 4 tonnes il y a 10 ans, 90 tonnes en 2021 et près de 110 tonnes l'an dernier. Mais il y aurait, selon les autorités, 10 fois plus de drogue en circulation. C'est à la conférence de presse que les Néerlandais et les Belges organisent pour évoquer ces chiffres que nous retrouvons Thibault Lefebvre et Thibault Nassim Ben au milieu des containers de bananes, des chiens policiers et des douaniers un peu désemparés.
Attention, we are about to start. So please, if you need to, please sit down right now.
Alors on vient de rentrer
dans la salle où va se tenir dans quelques instants la conférence de presse. Il y a 65 journalistes, un peu du monde entier, qui sont accrédités. Et donc, on a les chiffres officiels. Sans surprise, il y a exactement 109 894,48 kilos de cocaïne qui ont été saisis l'année dernière sur le port d'Anvers, soit un tout petit peu moins de 110 tonnes.
Good morning, everybody. First of all, my best wishes for the new year. A good health and not too much cocaine.
Je m'appelle Christian van der Waar, je suis l'administrateur général de la douane belge.
Décrivez-nous tout simplement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous procédez à un contrôle d'un chargement de bananes qui vient d'Équateur.
Oui. Ça a été identifié comme un conteneur à haut risque qui vient de l'Amérique du Sud. On regarde qui a envoyé la marchandise, quelle est la destination. Est-ce qu'il y a eu dans le passé déjà des problèmes avec ce bateau? Est-ce qu'il y a eu déjà des problèmes avec celui qui a envoyé ça, la société et tout ça? On a une forte collaboration avec les États-Unis et là, ils nous donnent souvent des informations, tel et tel conteneur, c'est quand même un haut risque qu'il y a de la cocaïne là-dedans. Une fois qu'on a identifié, on a sélectionné le conteneur doit être transporté du terminal vers notre infrastructure et on va faire une surveillance de chiens, notamment comme vous avez vu ici, mais ça peut se faire aussi avec des appareils scanning ou avec des contrôles physiques des marchandises.
Il faut combien de temps entre le moment où le conteneur à risque est repéré et lorsque vous procédez au contrôle?
Une demi-journée, même une journée. Ça prend du temps pour sortir les marchandises, ensuite pour les contrôler, ensuite de nouveau mettre les marchandises dans les conteneurs.
C'est du temps qui est aussi mis à disposition, laissé à la disposition des trafiquants, potentiellement pour s'organiser et retirer la cocaïne des conteneurs.
Absolument. Et du moment où le conteneur se trouve sur le sol belge, là, il reste encore des heures ou des jours sur les terminaux. À ce moment-là, c'est l'élément faible qu'on a à l'heure actuelle. C'est pour ça que dans le nouveau projet, on veut quand même que le scanning se fasse tout près du moment où le conteneur est mis sur le sol belge.
Quand est-ce que ça va être mis en place?
Juin de l'année prochaine, ils vont tous être opérationnels.
C'est très lent. On a l'impression que les douanes ont toujours un temps de retard sur les trafiquants qui sont toujours plus créatifs, plus ingénieux.
On fait le meilleur avec les moyens qu'on a. J'ai des budgets limités. Pourquoi ça prend autant de temps? C'est que là, il y a les marchés publics, il y a des règles à suivre, et il y a aussi le temps pour livrer les marchandises. Les sociétés de scanner n'ont pas les algorithmes pour identifier la cocaïne dans le conteneur. Alors là, c'est des algorithmes qu'il faut développer. Et c'est la douane qui doit le faire. Et tout ça explique pourquoi ça prend un an avant que tout soit mis en route.
Vous avez plusieurs douaniers qui sont aujourd'hui derrière les verrous, qui sont en prison suite à l'affaire SkyICC, cette messagerie cryptée canadienne qui a été donc contrôlée par les polices néerlandaises, belges et françaises. Il y a de la corruption dans la douane?
J'ai 4 personnes qui sont emprisonnées pour le moment, sur un total de 3300, avec des organisations qui ont énormément d'argent. Ils recrutent, ils payent des gens pour être recrutés à la douane ou à la police. C'est un combat qui est très, très difficile. Mais là, je n'ai pas le sentiment que mon organisation est complètement corrompue ou influencée par les organisations criminelles.
Vous avez des questions?
Ask them.
Allez-y.
Hello, I'm from the customs diving team.
Bonjour,
from
je fais partie de l'équipe de plongeurs des douanes des Pays-Bas.
Vous avez un masque, vous êtes caché, pour quelle raison?
Yes.
Oui.
So, nobody
personne
can recognize
ne doit nous reconnaître.
Yeah, you can see what we put.
Vous voyez tout ce qu'on sort de l'eau?
A lot of value.
Ça a beaucoup de valeur.
So that's why we,
donc on ne veut pas montrer qui nous sommes.
Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez saisi cette année pour passer de la cocaïne ici en Europe? Le dispositif est particulièrement ingénieux.
You can see over here, we have a torpedo.
Vous voyez ici, on a une torpille.
They can fill in.
Ils la remplissent de cocaïne.
And they can use a plate.
Et ils fixent une plaque en métal avec des aimants.
They can put magnets on it so they can put it everywhere on the ship.
Ils peuvent la cacher partout sur le navire,
you can clam it on the bilge,
y compris sous la ligne de flottaison.
And the magnet plates, they can put it everywhere. The red
et les plaques aimantées, ils peuvent en mettre partout.
Because a ship is fully metal.
Parce que le bateau est entièrement métallique.
Vous êtes masqué aux Pays-Bas lors des procès, notamment du procès Tanguy. Les magistrats aussi sont masqués. Est-ce que vous avez peur là-bas aux Pays-Bas des trafiquants?
No, we're not afraid, but...
Non, nous n'avons pas peur.
Please, we keep it this way.
Mais s'il vous plaît, on en reste là.
Merci beaucoup.
No problem.
Florence Angelici, vous êtes donc porte-parole du ministère des Finances belges. Vous êtes notamment en charge des douanes. On l'a appris il y a quelques minutes, 110 tonnes saisies de cocaïne en 2022. C'est un record. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle?
C'est pas spécialement une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que si on saisit plus, qu'il y a plus de cocaïne qui passe. Il faut savoir que chaque année... On bat notre record précédent et on n'a pas vraiment de fierté. On sait aussi que l'offre augmente. Par exemple, les plants de coca ont été génétiquement modifiés dans les pays de production, ce qui fait qu'il y a donc plus de récoltes. On constate aussi que la consommation augmente en Europe.
Combien ça se vend aujourd'hui sur le marché européen, un gramme ou un kilo de cocaïne?
Quand on fait des calculs, on estime entre 50 et 65 euros le gramme.
Pourquoi ça arrive ici? Pourquoi Anvers est un lieu privilégié par les trafiquants pour faire entrer sur le marché européen cette cocaïne?
Il y a plein de raisons. Hein. On a les lignes de fruits qui viennent d'Amérique latine, qui viennent typiquement vers Anvers. C'est historique, mais c'est aussi parce qu'on a les infrastructures pour recevoir. Il faut avoir des entrepôts réfrigérés, par exemple, quand on reçoit des bananes. On est à un port très étendu et donc très difficile à surveiller également. Donc c'est plus facile éventuellement pour faire de la contrebande, hein, puisque c'est ça hein, le trafic. Comme on est au cœur de l'Europe, on est très rapidement en Allemagne, très rapidement en France. En fait, c'est la même problématique que ce soit Anvers ou Rotterdam.
Si mes statistiques sont bonnes, il y a environ 200 millions de tonnes de marchandises qui transitent ici, sur le port d'Anvers chaque année, et seulement... 1,5 à 2% des containers qu'on a autour de nous sont inspectés. Pourquoi aussi peu?
Alors ça, il faut se rendre compte que c'est partout pareil. Hein. C'est toujours un espèce de double défi en tant que douanier, c'est qu'on ne peut pas arrêter la chaîne logistique. Il faut pouvoir permettre au commerce légal d'avoir lieu. Donc le but, c'est vraiment de cibler un maximum. Le gouvernement a annoncé 70 millions d'investissements supplémentaires. C'est pour augmenter le pourcentage de ces contrôles. Mais en fait, au niveau mondial, les ports qui font le mieux, par exemple Singapour, ils arrivent tout juste à 2%. Nous, ce qu'on envisage, en fait, c'est à plus long terme, c'est d'avoir 100% de scanning des marchandises à risque. C'est typiquement les bananes qui viennent d'Amérique latine. On a aussi des projets de nez électronique, qui est une technologie qui n'existe pas encore tout à fait, donc qui doit être développée pour être vraiment faciliter ce genre de contrôle. On n'y est pas encore, mais c'est en discussion. Et pour ça, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle, on le fait également avec les Pays-Bas pour se joindre avec d'autres pays. On travaille aussi beaucoup avec la France. La Belgique, c'est un petit pays, même si on a un très grand port. Et de toute façon, c'est une question européenne, ce n'est pas une question belge. Cette marchandise illégale qui arrive ici, elle va après inonder l'Europe.
À proximité de l'imposant palais de justice de Bruxelles, dont on aperçoit sur notre droite la coupole, nous sommes au cœur de la capitale belge. Et nous avons rendez-vous avec un des hommes les plus craints des criminels, mais aussi des gouvernements. Son dossier du moment, c'est le Qatargate et les soupçons de corruption au Parlement européen. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons demandé à le rencontrer. Michel Claeys est juge d'instruction. Il trace l'argent sale pour mettre en lumière la corruption et les réseaux de blanchiment. Et il dresse un tableau très sombre d'un pays gangréné, selon lui, par les groupes criminels liés au trafic de drogue notamment. Un pays qui ne se donne pas les moyens de faire face.
Je m'appelle Michel Claeys, je suis magistrat près du tribunal de première instance de Bruxelles et j'exerce le mandat spécial de juge d'instruction en matière financière et de juge européen attaché au parquet européen.
Je m'adresse à la fois aux juges d'instruction mais aussi aux citoyens éclairés. Aidez-nous à mesurer l'ampleur du phénomène criminel lié notamment au trafic de cocaïne.
Leur puissance économique est devenue considérable. On arrive à des montants considérables qui représentent des centaines de milliards. Pour un pouvoir financier gigantesque qui leur permet deux choses. Le blanchiment d'argent et la corruption.
Les pouvoirs publics semblent actifs dans cette lutte.
Vous avez raison quand vous dites qu'ils semblent actifs. C'est vrai, il y a des résultats, mais ce sont des apparences de résultats par rapport à cette gigantesque problématique.
Vous parlez d'une criminalité européenne. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la constellation des mafias aujourd'hui actives à l'heure où on se parle ?
Quelles sont les mafias qui fonctionnent ? Vous avez cité la mocromafia, bien sûr, mais aussi la présence des organisations criminelles d'origine albanaise. Vous ajoutez à ça les mafias italiennes traditionnelles. Alors vous posez la question que Drangheta et Cosa Nostra sont présentes hors Europe et dans toute l'Europe. La réponse est oui, et nous le savons. Vous avez aussi la criminalité chinoise. Quand les Chinois s'entendent avec les Italiens pour la fraude à l'importation, bien oui, ça fait partie des dossiers. Donc ça, nous le savons, etc., etc.
Et la France, dans tout ça, vous évoquez un phénomène mafieux européen. Quelle est l'ampleur du phénomène mafieux en France ?
La France n'échappe absolument pas au phénomène. Marseille, c'est quand même pas très agréable, hein, ce qui se passe à Marseille. Alors les gens qui s'entretuent dans les rues, ben, c'est un peu comme ici, quoi. De la même manière, vous avez également la pénétration via le Havre, par exemple, également de marchandises telles que la cocaïne et autres. Mais c'est la même chose à Amsterdam, Rotterdam, etc.
Mocromafia, quand la violence des cartels déferle sur l'Europe. Un reportage de Thibault Lefebvre, prise de son Thibault Nassim Ben, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Marie Le Peintre. Vous pouvez dès maintenant réécouter ce reportage sur franceinter.fr.